franceinter.fr. La revue de presse, Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Sébastien et bonjour à tous. Quelle incidence une œuvre d'art peut-elle avoir sur le cours des choses? Ou, dit autrement, l'art peut-il changer le monde? Changer des hommes, changer des femmes, modifier leur comportement, transformer leur façon de penser? Leur façon de penser? De telles questions peuvent faire songer à un sujet du bac philo, mais quand il s'agit de cinéma, l'actu souvent n'est jamais loin. Et la musique non plus d'ailleurs. Pour preuve, cet édito du nouveau numéro de Jazz News, dans lequel Mathieu Durand revient sur le succès de La La Land, la comédie musicale phénomène de ce début d'année. Je dois t'avouer un truc, et après on n'en parle plus, je déteste le jazz, dit Mia, l'héroïne, à Sébastien, le héros. Une confession qu'entendent souvent les amateurs de jazz. Dans le film, heureusement, le pianiste réussit à convertir son amoureuse, tout est bien qui finit bien, il transmet sa passion, mais dans la vraie vie c'est autre chose, commente le rédacteur en chef de la revue. C'est autre chose car, dans 98% des cas, à la louche, les gens qui disent qu'ils détestent le jazz n'en ont jamais écouté. Tout comme beaucoup d'électeurs d'extrême droite n'ont jamais côtoyé un immigré de leur vie. Ceci étant, poursuit l'éditorialiste, avant d'aimer, il faut toujours être initié. Et peut-être que La La Land sera cette étincelle pour toute une génération. Par exemple, on a appris que depuis quelques semaines, les touristes se pressent pour découvrir la scène du caveau de la Huchette à Paris, salle qui a inspiré une partie des décors du film. Autre exemple, si l'on tape La La Land sur Twitter, on tombe sur une flopée de messages du style « Je suis en pleine écoute de jazz depuis que j'ai vu La La Land. Je découvre cette musique que je ne connaissais pas. » La La Land a donc initié certains des spectateurs au jazz, lesquels se sont ensuite mis à en écouter. Effet de mode ou effet durable, c'est toute la question. Mais à la question « Une œuvre d'art peut-elle modifier les comportements ?» On est donc ce matin tenté de répondre oui. Oui, parfois un film modifie les comportements. Il change des hommes, il change des femmes, et dès lors, c'est certain, il peut aussi changer le monde. Cela dit, le phénomène ne fonctionne pas toujours, et il est peu probable que le dernier film de Lucas Bellevaux parvienne réellement à transformer la façon de penser de ceux qui le verront.
Et ce film, c'est Chez nous, et il sort dans les salles mercredi prochain.
Et sans doute en avez-vous déjà entendu parler. Il raconte les pratiques d'un parti populiste fictif, mais totalement identifiable. L'histoire de Pauline, une infirmière à domicile qui devient candidate au municipal, sous les couleurs donc de ce parti extrémiste, dans lesquels on reconnaît le Front National. D'ailleurs, au FN, on tire à boulet rouge sur ce thriller politique. Interview de Lucas Bellevaux dans le journal du dimanche. Il revient à la fois sur ses motivations et sur les comportements de ses personnages, de nouvelles recrues qui s'engagent pour combler un vide. Quand on arrive dans une section d'un parti comme celui-là, on est d'abord valorisé socialement, un peu comme dans une secte. Il y a une ambiance chaleureuse, des apéros, on dit à chacun qu'il est formidable et qu'on a besoin de lui. Une partie de la population considère d'ailleurs également que le Front National est devenu la seule alternative. Et ceci malgré les affaires. Le FN a beaucoup de casseroles, mais les électeurs pardonnent et ses militants s'en fichent, note le réalisateur. Question du journal, craignez-vous que le Front National remporte l'élection présidentielle? Réponse de Lucas Bellevaux. Ce dont j'ai surtout peur, c'est la banalisation d'un discours dégueulasse quand on entend un policier syndicaliste sur une chaîne publique qui considère que dire bamboula à un jeune noir est acceptable, ça montre bien l'état de notre société. Et comme sans doute les électeurs du FN n'iront pas voir le film, je doute que chez nous puisse vraiment modifier l'état de la société.
Lucas Bellevaux évoque un jeune noir qu'un policier appelle Bamboula. C'est une référence à l'affaire Théo.
Une affaire qui continue de faire la une d'une partie des journaux, la une de Midi Libre. À Montpellier, ils sont venus soutenir Théo, des défilés sous tension contre les violences policières, titre de son côté sud-ouest. Hier, des cortèges de plusieurs milliers de personnes à Paris et de plusieurs centaines de personnes dans certaines villes de province. Place de la République. On n'applaudit plus la police, confirme aujourd'hui le Parisien. Lucas Bellevaux évoque aussi les casseroles du FN. Il y a notamment cette affaire d'emploi fictif au Parlement européen. Marine Le Pen dément, elle réfute tout emploi fictif. Mais ce matin, Mediapart et l'hebdomadaire Marianne reviennent sur les zones d'ombre du contrat de son garde du corps. Celui-ci a bien été rémunéré comme assistant parlementaire local de la présidente du FN. Et ce, à travers deux contrats. Un temps partiel en 2009, un trois quarts temps en 2011, et pour une rémunération extrêmement élevée, selon les termes de l'Office européen de lutte antifraude, plus de 7200 euros nets mensuels. davantage encore que l'attaché parlementaire de François Fillon. Lequel fait d'ailleurs la une du JDD ce matin, nous allons y revenir. Mais pour rester encore sur le Front National et sur son fonctionnement, je vous conseille la lecture de Politis cette semaine. Vous lirez les témoignages de repentis du FN. Témoignages de Guillaume Larose, ancien militant du collectif Marianne, ancien électeur socialiste. C'est le souverainisme du Front National qui l'a d'abord intéressé. Très vite, raconte-t-il, il t'entoure. Tu penses FN, tu respires FN, tu t'éloignes de ton entourage. On te dit que les médias mentent. Mais s'il a quitté le parti, c'est parce qu'il a pris conscience de ce que pensaient les militants de base. En tant qu'homosexuel, j'ai été la victime systématique d'insultes sur les réseaux sociaux ou dans les couloirs du parti, on me traitait de sale pédé. Conclusion de son témoignage, ce parti est une escroquerie et je quitterai la France s'il arrive au pouvoir. Ancien électeur socialiste, lui aussi, ce que raconte Patrice Henny est du même acabit. Lui, il a été adjoint au sport de la ville frontiste d'Ayange. Et s'il a quitté le parti, c'est à cause du racisme qu'il y a ressenti. Il voulait aider une jeune femme d'origine polonaise qui souhaitait monter un cours de danse orientale. La danse orientale n'est pas compatible avec le FN, lui a rétorqué le maire. Tandis qu'un autre adjoint lançait « Si les femmes françaises commencent à faire de la danse orientale, on va finir par prier avec eux ». Troisième témoignage, celui d'Arnaud Cléré, ancienne tête de liste d'un mouvement d'extrême droite au municipal de Gamache, lui raconte les croix gammées tatouées sur les bras de certains militants, puis les pressions insupportables quand il a quitté le mouvement, des messages d'insultes sur Facebook et par téléphone qui l'ont plongé dans une dépression sévère. « Je ne crois pas, dit-il, que l'on puisse imaginer ce que l'on subit quand on tient tête au Front National. »
La présidente du parti fait d'ailleurs la une ce matin d'aujourd'hui le Parisien.
À côté du visage de Jean-Luc Mélenchon. Ils sont tous les deux à la une. Mélenchon contre Le Pen, la campagne parallèle, titre Le Quotidien. En précisant, je cite, que les deux candidats populistes sont omniprésents sur les réseaux sociaux. Décortiquage dans le journal de leurs stratégies respectives du côté de Le Pen. Une campagne sans filtre grâce à des sites proches du parti sur lesquels on peut lire des propos que les dirigeants du Front National n'osent même plus tenir eux-mêmes. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, un carton sur YouTube où il parle de son programme et où il commente l'actualité, la chaîne qu'il a créée, compte à ce jour plus de 215 000 abonnés et elle totalise près de 14 millions de vues. Pourquoi une chaîne sur Internet? Pour pouvoir avoir une parole autonome vis-à-vis du système médiatique, explique l'un des responsables du site. L'article rappelle par ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a toujours été à la pointe des nouvelles technologies. En 1988, il s'était ainsi emparé du Minitel pour promouvoir la candidature de François Mitterrand à sa réélection. Il avait imaginé le 36-15 Tonton. L'autre candidat à la une, celle du JDD, nous le disions, c'est donc François Fillon. 36-15 Fillon n'existe pas encore, mais comment peut-il tenir, titre l'hebdomadaire. En l'occurrence, François Fillon considère que la justice lui laisse aujourd'hui le champ libre et il a décidé, nous dit-on, de muscler sa campagne, notamment sur les questions de sécurité. Cela dit, quand on lit le dossier, on se rend compte que dans son équipe, l'ambiance n'est pas franchement sereine. Tension sur le terrain, organisation chaotique, l'entourage de François Fillon est au bord de la crise de nerfs, du simple adhérent jusqu'au cadre du parti. La même plainte revient en boucle. C'est le bordel. Et puis la presse revient aussi sur la grande manifestation qui s'est tenue hier à Barcelone. 160 000 personnes défilant pour demander au gouvernement espagnol d'accueillir davantage de réfugiés. Le gouvernement espagnol s'était engagé à en accueillir 16 000. Pour l'heure, ils ne sont qu'un peu plus d'un millier. La manifestation s'est terminée symboliquement au bord de la Méditerranée, où plus de 5 000 migrants ont péri l'an dernier. Le mot d'ordre du rassemblement, c'était « Chez nous, c'est chez vous ».
C'était la revue de presse de Frédéric Pommier.